Radio Okapi, regard sur l'actualité de la semaine.
Bonjour et bienvenue dans votre émission de Radio Okapi intitulée Regard sur l'actualité de la semaine. Ravi de vous retrouver encore ce matin. Nous rappelons que chaque samedi à partir de 7h25 heure de Kinshasa, nous vous proposons de passer à revue les faits qui ont marqué l'actualité de la semaine en cours. Avec nos invités, nous essaierons de comprendre en quoi ces faits sont importants et quelles peuvent être leurs conséquences sur la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, pour justement passer en revue l'actualité de la semaine, nous recevons Patient Ligodi, il est journaliste, il est directeur général du média en ligne actualité.cd et aussi correspondant de la Radio France Internationale RFI en RDC. Bonjour Patient Ligodi.
Bonjour Guy Maté et bonjour également aux auditeurs de Radio Okapi.
Madame Diane Esther Lamata, membre de la société civile du Haut-Katanga et les présidentes de l'ONG Label Diest Foundation. Bonjour Madame Diane Esther Lamata.
Bonjour Monsieur Guy Maté et bonjour à tous les auditeurs.
Et en ligne depuis Bruxelles, capitale de la Belgique, Madame Colette Blackman, elle est journaliste au journal Les Soirs. Bonjour Madame Colette Blackman.
Bonjour, bonjour à tout le monde.
Merci à tout de suite pour la rétrospective des 7 jours d'actualité. Mesdames et messieurs, vous écoutez Regard sur l'actualité de la semaine, l'émission qui passe en revue l'actualité qui a compté au cours des 7 derniers jours de la semaine.
Si vous avez manqué une édition du journal en français et en langue nationale de Radio Okapi, ou encore la chronique coronavirus et le journal de sport, vous pouvez appeler gratuitement le service 42-502 en utilisant un numéro Vodacom. Les appels sont gratuits. Composez les 42-502 et choisissez le menu de Radio Okapi en appuyant sur 3 après le message de bienvenue. N'oubliez pas, les appels sont gratuits en utilisant un numéro Vodacom. Radio Okapi, encore plus proche de vous pour mieux vous servir.
Nous sommes dans Regard sur l'actualité de la semaine. Je rappelle que cette émission connaît la participation de Patient Ligodi, journaliste et il est directeur général du média en ligne actualité.cd et aussi correspondant de la Radio France Internationale RFI en RDC. Madame Diane Esther Lamata, membre de la société civile du Haut-Katanga et les présidents de l'ONG Label Diest Foundation. Et en ligne depuis Bruxelles, capitale de la Belgique, Madame Colette Peckman, elle est journaliste au journal Les Soirs. Au menu de cette émission, massacre d'une cinquantaine de personnes à Goma par certains éléments des FRDC. Le gouvernement congolais demande à la MONUSCO d'accélérer son processus de départ. Pendant ce temps, les sommets de l'EAC à Nairobi au Kenya décident de renouveler les mandats de la force de l'EAC pour les 3 prochains mois dans la province du Nord Kivu. Enfin, la problématique de l'éducation de la jeune fille et la rentrée scolaire dans les milieux ruraux en RDC. Mais nous allons commencer par émettre un commentaire au sujet du sommet sur le climat de Nairobi au Kenya. En effet, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a appelé mardi 5 septembre la communauté internationale à apporter une aide financière pour une transition vers les énergies renouvelables en Afrique. Il a lancé cet appel lors du sommet sur le climat débuté lundi dernier à Nairobi au Kenya. Ces assises se sont proposées de faire du continent africain la puissance émergente en matière d'énergie renouvelable. Selon Antonio Guterres, l'Afrique ne représente que 4% des émissions mondiales de gaz à effet de serre, mais elle subit certains des pires effets du changement climatique. Il a appelé à aider l'Afrique à effectuer une transition juste et équitable vers les énergies renouvelables. Selon lui, l'Afrique peut être une superpuissance dans ces domaines, mais pour y arriver, le secrétaire général de l'ONU a estimé qu'il faut réformer un système financier mondial dépassé, injuste et dysfonctionnel. Patient Ligodi, une fois de plus, on sent que l'argent des pays du Nord, donc les grands pollueurs, est l'enjeu principal de toutes ces rencontres sur le climat, mais ces financements ne suivent pas. Quelle est votre réaction?
Déjà, bonjour à tous les auditeurs de Radio Okapi, également bonjour à la grande sœur et la grande consoeur Colette Bratman, mais également à tous ceux qui suivent Radio Okapi, notre sœur de la société civile. En fait, ce qu'il faut peut-être, de mon côté, ce que ça m'inspire, c'est cette absence, on va dire, du Sud dans les grandes discussions, en ce qui concerne notamment les négociations, en ce qui concerne le positionnement, d'où la grande question de ce que la RDC, le Brésil, ainsi que l'Indonésie sont en train de vouloir constituer une sorte de OPEP du climat pour peser sur les grandes négociations, les grandes discussions autour du climat dans le monde. C'est-à-dire que le fait pour les grandes puissances climatiques, entre guillemets, ceux qui gèrent ou bien ceux qui sont dans les grands bassins forestiers du monde, comme le Congo, comme l'Indonésie, comme le Brésil, se mettre ensemble pour décider, on va dire, des agendas, mais aussi des positions communes pour essayer de peser, ça permettra d'avoir plus ou moins des dividendes. Mais si on continue à aller de manière dispersée dans ces grandes discussions, quand bien même on irait comme bloc Afrique dans ces grandes discussions, ça sera que, on va dire, des sommets, des trop, des rencontres, des trop. Je crois qu'il faut passer à un autre niveau, le niveau des grands ensembles, comme je l'ai dit, RDC, Brésil, Indonésie, pour avoir un agenda commun, avoir des vrais éléments communs d'échanges et de discussions pour pouvoir avoir quelque chose à dire, que ce soit en ce qui concerne le prix de ce que les grandes puissances doivent, l'humanité doit au bassin du Congo, au bassin de l'Amazonie, au bassin également de l'Indonésie, que ce soit en ce qui concerne également tout ce qui concerne le prix du carbone, tout ça, ça permet, du crédit carbone, ça permet d'avoir, on va dire, des grandes lignes communes pour arriver à débattre et à peser sur l'échiquier international.
Merci Madame Diane Esther Lamata. La communauté internationale avait décidé de financer 100 milliards de dollars américains par an pendant 5 ans pour entamer cette transition écologique. Mais pour certains experts, cette somme, c'est ce qu'il faut pour la seule Afrique du Sud et des fois plus pour tous les continents africains. Et Madame Diane Esther Lamata, déjà les 100 milliards n'arrivent pas, les 100 milliards de dollars n'arrivent pas. Et même si c'était décaissé, pour ces experts, ce n'est pas suffisant. Est-ce que cette transition écologique aboutira un jour?
Monsieur Matt, la transition écologique, je pense que ça aboutira, mais c'est seulement si on évaluait d'abord le coût que ça pourra prendre, et après avoir évalué les coûts, savoir comment canaliser les moyens et que ça parvienne aux institutions qui ont la compétence, la qualité. Et si nous estimons que les 5 millions ne sont pas suffisants, je crois que ça sera difficile. Il sera facile si d'abord nous-mêmes nous avons la volonté d'y arriver, nous avons la volonté de faire, et que nous-mêmes en tant que citoyens, membres du continent, citoyens du continent africain, aimerons bien et partageons la même idée et nous y mettions aussi un coup de pouce pour que ça avance. Les 5 milliards, moi je trouve que, je ne sais pas dire si c'est beaucoup ou moins, mais je pense que la meilleure question serait de poser aux experts qui sont sur terrain, d'évaluer. Une fois que c'est suffisant, il faudrait maintenant conscientiser nous-mêmes, le peuple africain, à allouer cette somme uniquement dans ces projets, au lieu que ça se volatilise, comme c'est l'exemple avec plusieurs projets autres que ça.
Merci Madame Colette Brackmann. Il est demandé aux Africains d'amorcer une transition vers les énergies renouvelables, mais on sent une certaine levée des boucliers de la part des États africains qui pensent qu'il est injuste de demander aux pays les moins avancés de se départir des énergies fossiles dont ils ont besoin pour leurs économies. Et aujourd'hui, la grande équation, c'est comment concilier les impératifs de la croissance économique et ceux de la transition écologique, Madame Colette Brackmann.
Oui, c'est évidemment un grand sujet. Je félicite les intervenants précédents, mais je crois que ce sont les pays du Nord, les anciennes puissances coloniales, qui ont exploité ces ressources d'une façon totalement déraisonnable, et à mon avis, c'est à eux de faire l'effort. 5 milliards de dollars, mais c'est une aumône, ce n'est rien du tout. Mais on ne peut pas les amener à changer, sauf dans le rapport de force. Et là, ce sont les pays du Sud qui doivent, comme l'OPEP l'a fait il y a presque 50 ans, ils se sont unis, ils ont posé imposé leurs conditions, ils ont fait un chantage, si vous n'acceptez pas nos conditions, on coupe les robinets, et finalement, tout le monde a dû s'incliner devant leurs conditions. Donc, il faut avant tout que les pays du Sud discutent entre eux, s'unissent, et je crois que les coups d'État qui se succèdent actuellement en Afrique, les difficultés de grands pays producteurs de ces produits dont le Nord a désespérément besoin, les difficultés politiques, tout ça c'est lié, on essaie de les déstabiliser pour qu'ils ne subissent pas, pour qu'ils ne prennent pas ces mesures radicales dont tout le monde a besoin finalement.
Oui, j'ai posé la même question à Madame Diane Esther Lamata, et l'argent qui a été décidé, les 5 milliards de dollars américains par la communauté internationale pour financer la transition écologique, cet argent n'est toujours pas décaissé, ça n'arrive toujours pas. Et déjà, même pour les experts, même si cet argent est décaissé, ce n'est pas suffisant. Et vous pensez que cette transition finira par réussir un jour?
Moi, je crois que ce n'est pas assez et que la question n'est pas tout à fait là. Il faut aussi que les pays du Nord changent leur mode de consommation, leur soif de pétrole, leur soif de matières premières qui viennent du Sud, qu'il y ait un changement de comportement au Nord. Et à la limite, c'est au Nord qu'on doit financer l'alternative, dire aux gens, vous pouvez essayer de faire autrement, mais sinon on n'en sortira pas. Et il faut que les pays du Sud, comme les gens, je répète, comme l'OPEP autrefois, se mettent d'accord entre eux et posent des conditions draconiennes, on ferme les robinets, on coupe les exportations, point final, et on discute plus, vous devez céder. C'est un rapport de force. Mais pour ça, il faut être unis, il faut être ensemble, mais quand même, avec le Brésil, avec l'Afrique du Sud, peut-être la RDC, on avance.
Merci, on prend une petite pause avec Zamba Zamba des frères Soki et on revient juste après.
Thank you.
C'était Zamba Zamba des frères Soki, une chanson sortie en 1973 suite à une campagne initiée par le président Mobutu pour préserver la forêt. Les frères Soki qui ont interprété cette chanson nous ont tous quittés, tous deux en 1987, paix à leurs âmes. On revient à l'actualité de cette semaine. Le bilan de la répression de la manifestation du 30 août à Goma, au Nord Kivu, est passé de 43 à 51 morts, a annoncé mercredi 6 septembre le ministre de l'Intérieur, Peter Kazadi, au cours d'une conférence de presse à Kinshasa. Le 30 août à Goma, des forces de l'ordre ont réprimé violemment une manifestation des adeptes de la secte La Foi Naturelle Judaïque Messianique vers les Nations, qui se faisait appeler le Wazalendo. Des dizaines de personnes ont trouvé la mort, plus de 50 autres ont été blessées. Une centaine de manifestants ont été interpellés. Leur procès a démarré le 1er septembre au tribunal militaire de garnison de Goma. Des responsables militaires sont aussi aux arrêts. Et les gouverneurs militaires du Nord Kivu, rappelés en consultation à Kinshasa dans le cadre de cette affaire. Madame Colette Kretman, vous êtes journaliste au journal Le Soir. Vous avez souhaité nous parler de cette théorie du 30 août à Goma. On vous écoute.
Mais moi, je voulais surtout partager avec les auditeurs les questions qui subsistent et qu'on peut se poser. D'abord, il y en a plusieurs. D'abord, c'est une secte qui vient de Bukavu, apparemment, mais il y a eu des morts, ok. Mais à Bukavu, il n'y a personne qui se plaint que des membres de la famille soient morts. Il n'y a pas eu d'enterrement, il n'y a pas eu de deuil, rien. Donc, apparemment, on ne les connaît pas très bien à Bukavu, on ne les connaît pas bien à Goma non plus, puisqu'on dit qu'ils viennent d'ailleurs. Deuxièmement, on dit que c'est une secte, on a donné le nom une secte religieuse, on dit aussi que ce sont des Wazalendo. Moi, je suis allée au Nord Kivu, les Wazalendo, ça veut dire les enfants du pays qui défendent leur terre. Les Wazalendo sont dans leur village, ils sont sur les routes à l'extérieur de Goma et ils défendent l'accès à Goma aux rebelles du M23. Ils sont dans les campagnes. Ils ne sont pas rassemblés en ville. Donc, est-ce que c'est bien des Wazalendo ou est-ce que c'est un nom qu'on utilise? On peut se poser la question. Troisième question, est-ce que c'est vraiment la garde républicaine, qui est une unité d'élite qui dépend du chef de l'État, qui devait intervenir? Est-ce que ce n'était pas une opération qui revenait à la police, aux forces locales? Pourquoi cette décision de faire intervenir des unités très armées, très violentes et tout? Et aussi, est-ce que c'est dans ces gardes républicaines, est-ce qu'il n'y avait pas des soldats jeunes, mal formés, qui ont complètement dérapé et qui sont allés normalement, des forces de l'ordre maintiennent l'ordre, elles ne tuent pas l'ensemble des manifestants. Quatrième question, le but de ces Wazalendo, si j'ai bien compris, de cette secte, c'était de manifester, probablement avec violence, contre la présence de la MONUSCO. La MONUSCO, enfin les ONG internationales et la force est-africaine. Ok, on peut dire que la MONUSCO, la force est-africaine, a déçu la population. Mais en même temps, ces armées ont défendu la ville de Goma. Donc, en supposant que la manifestation ait lieu, qu'elle réussisse, qu'on contraigne la MONUSCO et les forces est-africaines à accélérer leur départ, ça veut dire que Goma est sans défense. Elle est sans défense par rapport à qui? Qui menace depuis des mois de prendre Goma? Ce sont les forces du M23 et on sait avec qui ils sont et qui les soutiennent. Donc moi, j'ai un ensemble de questions qui restent sans réponse et ça m'interpelle beaucoup.
Et donc, vous pensez que ces adeptes de cette secte pourraient être manipulés par des forces obscures?
Je ne sais pas, mais en tout cas, je relève beaucoup de contradictions dans ce qu'on dit. Je suis en Belgique, dans ce qu'on lit, dans ce qu'on dit, je relève quand même beaucoup de bizarreries et de contradictions. Donc, je me pose des questions. À qui aurait profité la manifestation si elle avait pu avoir lieu? À qui profite le crime aujourd'hui? Parce que les victimes sont bien là et c'est tout à fait déplorable que tant de gens aient pu être massacrés. Mais il y a beaucoup de questions qui se posent, on ne connaît pas le fond de l'histoire.
Comme vous l'avez dit, on sait que c'est la police qui est censée maintenir l'ordre public, mais ces jours-là, c'est plutôt la garde républicaine qui était intervenue. Lorsque l'on décide d'envoyer la garde républicaine, on peut dire que cela voudrait dire qu'initialement, il y avait cette intention de fermeté à l'endroit des personnes qui s'apprêtaient à organiser leur manifestation?
Probablement que dans le chef du gouverneur de militaire, donc Constantin, le général Constantin, lui, il n'a pas sous-estimé la menace, il l'a peut-être surestimé, mais en tout cas, il a pris de son point de vue une mesure radicale. Il faut interdire à ces gens de manifester, parce que je pense ça pouvait dégénérer, et si ça avait dégénéré et atteint le but qui était annoncé, ils n'ont pas agi en cachette, le but était de faire partir la MONUSCO et la force est-africaine. Et ça profite à qui? Est-ce que ça profite aux habitants de Goma, ou est-ce que ça profite à ceux qui sont autour de Goma et qui rêvent de prendre la ville et qui en ont été empêchés jusqu'à aujourd'hui par les forces internationales qui se trouvent à Goma? Donc je pose la question.
Merci. Patient Ligodi, journaliste et directeur général du média en ligne actualité.cd et aussi correspondant de la Radio France Internationale RFI en RDC. Et beaucoup de questions au sujet de ces carnages, hein, notamment qu'est-ce qui a fait qu'on puisse mettre à profit la garde républicaine en lieu et place de la police? Peut-on un jour espérer que l'enquête répondra à ce genre de questions?
Je crois qu'il faut une série, en plus de ce qu'a dit Colette Brackmann, il y a une série de choses à dire. Il y a déjà une condamnation publique qui doit être claire de la part des autorités, de la part des organisations de défense des droits de l'homme, de la part de la communauté internationale, pour condamner ces actes d'une manière univoque et exiger une enquête. Parce que on entend par-ci par-là des termes comme dérapage, mais là il y a quand même plus de 50 personnes qui ont été tuées. On ne va pas dire que ces personnes ont été tuées par un acte isolé ou un dérapage. Non, il faut une condamnation déjà publique de manière univoque pour exiger une enquête. Deuxièmement, il faut, comme tu le disais, une enquête indépendante, parce que de la manière dont les enquêtes sont menées, sans préjuger de la suite à donner à ces enquêtes, on voit très bien que tout le monde n'est pas dedans. On a entendu notamment les ministères publics dédouaner déjà l'autorité publique, l'État ou l'institution. Mais je crois qu'il faut une enquête, une commission d'enquête indépendante qui devrait être mise en place pour enquêter sur les circonstances des meurtres et identifier les responsables. On a un chiffre, on doit avoir des noms. Hein. Qui sont ces gens qui ont été tués et qui ont tué ces gens et dans quel contexte? Pourquoi l'usage excessif de la force? Qui sont ces gens? On a des chiffres sur des personnes qui ont été tuées, mais on doit également avoir des noms de ces personnes, on doit les identifier. Autre chose, il faut des poursuites judiciaires bien clairement faites. Les responsables des meurtres, qu'ils soient exécutants ou donneurs d'ordre, doivent être traduits en justice. Autre chose, on oublie souvent, c'est le soutien aux familles des victimes. Hein, il faut une assistance médicale, psychologique, juridique qui doit être offerte aux familles des victimes. Jusque-là, on n'en parle pas assez. On parle de la justice, on parle de la condamnation. Mais quels sont les mécanismes qui sont mis en place pour une assistance médicale, psychologique et même juridique à ces familles des victimes? Autre chose, maintenant, sur le plan structurel, il faut penser également à la formation des forces armées. Les militaires qui doivent recevoir une formation adéquate sur le respect des droits de l'homme, sur la gestion des manifestations, sur la gestion des situations qui impliquent notamment la spiritualité, qui impliquent notamment les communautés. Il faut une vraie formation à donner à nos forces armées. Pour terminer, peut-être il faut faire également la révision des cadres législatifs et réglementaires. Si nécessaire, il faut réviser les lois et les réglementations pour assurer que les forces armées n'aient pas toujours à faire un usage disproportionné de la force lors des manifestations. Et peut-être, là où je vais terminer, puisque la situation implique quand même la communauté internationale, parce qu'il y avait un prétexte, c'est-à-dire on va manifester contre la présence de la MONUSCO, on va manifester contre la présence de la force de l'EAC. Il faut que la communauté internationale, notamment les organisations régionales et les Nations Unies, mettent pression sur le pays pour qu'il respecte les droits de l'homme et prenne des mesures correctives. Parce qu'il faut quand même ne pas oublier qu'il s'agit des actes qui se sont déroulés dans notre pays, ont eu, on va dire, des victimes qui sont congolaises, et les auteurs sont essentiellement des Congolais, donc il va falloir à ce qu'il y ait un engagement clair qui soit dégagé. Je pense que la réponse à de tels événements doit être rapide, transparente, et doit viser à rétablir la confiance entre les citoyens et les institutions de l'État.
Et qu'est-ce que, à votre avis, Patient Ligodi, qu'est-ce que ces tueries pourraient avoir comme conséquence sur le plan sécuritaire au Nord Kivu?
J'ai deux choses à dire là-dessus. La première, c'est que je me rappelle lors de la prise d'armes et la passation de pouvoir entre l'ancien chef d'état-major général et les nouveaux chefs d'état-major général de l'armée congolaise, il y a un mot qui avait, une phrase qui avait été dite qui m'avait marqué, je me rappelle, c'était au camp Kokolo ici à Kinshasa, qui disait: il y a un acquis qu'on a pu obtenir dans le cadre de cette belligérance qu'il y a avec M23, c'est que vous avez, pour l'une des rares fois, une confiance entre les forces armées de la RDC et la population. C'est-à-dire qu'on a un soutien moral qui est accordé par la population aux forces armées de la RDC. Et des actes comme ça fragilisent en fait cette confiance-là. Et ça, comme le disait Colette Brachmann, ça profite à qui? Le fait qu'on n'ait pas une confiance entre les citoyens et les institutions de l'État. C'est là la question principale. L'une des conséquences, c'est justement cette rupture de confiance entre les forces de sécurité et la population. Si on a au sein des forces armées des unités ou des personnes qui peuvent se comporter comme ces personnes en armes qui se sont comportées face aux personnes qui n'étaient pas armées.
Merci. Merci, Madame Diane Esther Lamata, membre de la société civile du Haut-Katanga. Vous êtes présidente de l'ONG Klabel Diest Foundation. Que répondez-vous à ces personnes qui disent ne rien attendre de cette enquête qui a été initiée? Et ces personnes pensent que ça va s'apparenter à toutes les enquêtes initiées dans ces pays, et des enquêtes qui n'aboutissent jamais, et sinon à arrêter les menus fretins, et que les commanditaires ne seront jamais connus.
Moi, je trouve qu'il faudrait mettre une commission d'enquête indépendante, comme l'a dit mon prédécesseur tout à l'heure. Dans notre pays, nous savons que ça va commencer et puis ça va s'arrêter. Et nous, nous suggérons, en tant que membres de la communauté civile, nous suggérons une enquête indépendante, faire appel aux experts internationaux pour venir mettre fin et mettre la clarté sur cette question. Vous savez, c'est la vie des gens qui ont été ôtés. Ces gens et ces personnes ont deux enfants qui voulaient aussi bien voir la justice aboutir, la procédure aboutir et mettre à nu les commanditaires. Le problème n'est pas ce qui était sur terrain. Ils ont reçu certainement l'ordre et ils l'ont exécuté sans tenir compte du pour et du contre. Parce que nous voyons déjà que les mesures qui ont été prises ont été disproportionnées. Vous voyez, la tuerie n'est pas la seule façon de disperser les manifestants. Ils pouvaient utiliser d'autres mesures simples qui pouvaient juste paralyser la manifestation et prendre ces gens, l'enquêter pour savoir la vérité. Je crois qu'il s'est dit sûrement que ce sont les étrangers qui sont derrière ça, ce sont patati patata qui sont derrière eux, mais la bonne façon c'est de mettre sur pied une commission indépendante d'enquête qui pourra voir les identités de ceux qui ont été tués, voir si ce sont des Congolais ou pas, et si ce sont des Congolais, est-ce qu'il était permis de doter leur vie, même s'ils étaient étrangers, il leur a été permis de doter leur vie. Et s'ils sont étrangers, voir dans quelle mesure punir pour mettre fin à ce processus. S'il y a impunité, en tout cas, ça va se répéter chaque fois qu'il y a un soulèvement.
Merci, merci, chères auditrices et chers auditeurs. L'actualité en RDC, c'est aussi l'actualité musicale. Comme vous le savez, l'artiste et musicienne Aya Nakamura séjourne en RDC pour une série de productions. Nous allons donc écouter une de ses chansons intitulée Baby et on revient juste après.
On veut pas se faire. manière qui m'ont mélangé. Y'a comme un truc qui me dérange. De tout ça, j'ai pas l'habitude. Avec moi, tu peux te balader. Je sais que t'as trop kiffé. C'est pas facile, mais faut pas lâcher. Il faut que tu parles. J'ai senti des mots en train d'entrer. On peut pas se cacher. J'ai senti ce que t'as senti. Il veut câlin partout.
Radio Okapi, regard sur l'actualité de la semaine.
Bonjour, nous revenons dans cette émission Regard sur l'actualité de la semaine. Je rappelle que chaque samedi à partir de 7h25 heure de Kinshasa, nous vous proposons de passer en revue les faits qui ont marqué l'actualité de la semaine en cours. Avec nos invités, nous essayons de comprendre en quoi ces faits sont importants et quelles peuvent être leurs conséquences sur la RDC. Dans la première partie de ces magazines, nous avons fait un commentaire au sujet du sommet sur le climat qui s'est tenu à Nairobi au Kenya. Nous avons également analysé le carnage des Goma au Nord Kivu. Participe à cette émission, Patien Ligodi, le journaliste et le directeur général du média en ligne actualité.cd, aussi correspondant de la Radio France Internationale RFI en RDC. Madame Diane Esther Lamata, membre de la société civile du Haut-Katanga et le président de l'ONG Klabel Diest Foundation, et en ligne depuis Bruxelles, capitale de la Belgique, Madame Colette Zachmann, et le journaliste au journal Le Soir. La mission de l'Organisation des Nations Unies pour la stabilisation en République démocratique du Congo, MONUSCO en sigle, doit accélérer son retrait de la RDC. C'est le souhait que le gouvernement de la République démocratique du Congo a exprimé à travers une lettre adressée au président du Conseil de sécurité des Nations Unies en date du 1er septembre. Pendant ce temps, le mandat de la force de l'EAC a été renouvelé mardi 5 septembre pour les trois prochain mois dans la province du Nord Kivu. Ce renouvellement a été décidé lors du sommet de l'EAC à Nairobi au Kenya. Cela en dépit des critiques des autorités congolaises et de la société civile sur l'inefficacité de cette force à mettre fin à l'activisme des rebelles du M23. Cette nouvelle prolongation serait due au progrès opérationnel réalisé par la force, a indiqué le communiqué final du dit sommet. Patient Ligodi, ces sujets, vous l'avez proposé, on peut savoir pourquoi?
Parce que pour moi, c'est un sujet très important dans la mesure où ça implique non seulement la RDC, ça implique la sous-région, ça implique les pays voisins, ça implique également les Nations Unies, ça implique tout le monde avec notamment des enjeux sécuritaires, économiques, humanitaires. Donc rien que par rapport à tous ces enjeux qui sont géopolitiques, qui sont humanitaires, qui sont sociaux, qui sont sécuritaires et qui impliquent également les pays voisins, qui impliquent la crédibilité des Nations Unies, qui impliquent également le sérieux du gouvernement congolais, je pense que c'est un sujet important, surtout qu'on est vers la fin du premier quinquennat de Félix Tshisekedi, on est également à quelques jours de la rentrée parlementaire prévue les 15 de ce mois, on est également à quelques jours de l'Assemblée générale des Nations Unies. Pour moi, c'est important d'en parler maintenant. Et si on doit également prendre en compte le fait qu'il y a eu la cinquantaine de personnes qui ont été tuées, et c'était notamment en partie avec notamment la question liée à la présence de forces étrangères et des forces des Nations Unies et de l'EAC sur les territoires congolais.
Oui, et quelle analyse vous faites de cette décision du gouvernement congolais de demander à la MONUSCO d'accélérer son retrait de la RDC? Pendant ce temps-là, la force de l'EAC, son mandat est prolongé pour les trois prochains mois dans le Nord Kivu. Comment vous analysez cela?
Il faut déjà dire qu'on se retrouve dans une situation électorale, préélectorale. On a une constante dans ce pays. À chaque année électorale, il y a une montée des messages contre la MONUSCO. Ça, c'est une constante depuis beaucoup d'années. Deuxième chose, on a également une autre constante, c'est que la MONUSCO ne peut pas elle dit qu'elle ne peut pas combattre le M23. Elle le dit très ouvertement. Elle dit que le M23 a la capacité d'abattre des hélicoptères, donc elle ne peut pas combattre le M23. Or, il se trouve que le gouvernement congolais attend notamment de la MONUSCO de se battre contre le M23 qu'il considère, lui, comme le principal problème qui, notamment, ne permet pas, un, l'organisation de l'enrôlement des électeurs, deux, ne permet pas également le contrôle des zones qui sont aujourd'hui administrées par le M23, et on a également une grande partie de la fiscalité de cette région qui échappe à l'État congolais. Donc, pour le gouvernement congolais, il y a une sorte d'immobilisme de la part de la MONUSCO qui va falloir notamment résoudre. Et ça, c'est quelque chose qu'on peut comprendre. En même temps, on se retrouve dans une situation, quand tu vas par exemple à Ituri, puisque c'est des zones et des situations différentes, hein, c'est là qu'on vous retrouve au nord Kivu, au sud Kivu ou encore à Ituri, la MONUSCO ne réagit pas de la même manière. Quand vous arrivez à Djougou, par exemple, vous avez des zones où la population locale n'a de sécurité que par la présence de la MONUSCO. Ce qui n'est pas forcément le cas, notamment dans, au sud Kivu ou encore au nord Kivu. Donc il faut dire qu'on se retrouve dans un cadre électoral où il faut évidemment être en phase avec la population, être en phase avec les dignitaires locaux qui ne jurent que par le départ de la MONUSCO, parce que ça sert également aux intérêts politiques, aux intérêts liés aux élections. Et deuxièmement, le gouvernement congolais a un bilan à défendre, en tout cas le gouvernement de Tshisekedi a un bilan à défendre, parce qu'il le pense sécuritaire, et il se trouve dans une situation où la sécurité dans l'est du Congo n'est pas au rendez-vous, malgré tous les déploiements qu'on peut arriver à avoir sur le terrain. Et troisièmement, on a également la force de l'EAC qui a eu des grands problèmes avec le gouvernement congolais, notamment dans la définition de son mandat. Kinshasa croit que, et dit, et cite également les SOFA, c'est-à-dire le document qui permet aux troupes étrangères de l'EAC de pouvoir se déployer en RDC, que ces forces-là, la force de l'EAC, doit combattre les groupes armés qui sont en RDC. Or, il se trouve que l'EAC ne combat pas justement le M23, mais par contre arrive à trouver des mécanismes d'échange, de cohabitation, et le président Tshisekedi l'a même dit, il y a des zones où le M23 récolte notamment les impôts ou d'autres types de fiscalités en présence justement de contingents de forces de l'EAC. Donc on se retrouve dans une situation où la force de l'EAC se trouve sur les territoires congolais, ne combat pas les différentes forces qui sont dedans. Et on a également la MONUSCO qui, de son propre aveu, incapable de se battre comme le M23, qui est considéré par le gouvernement congolais comme le principal obstacle à la paix dans cette partie du pays. Et vous avez également des opportunités, notamment l'Assemblée générale des Nations Unies et la réunion prévue au Conseil de sécurité sur la question du Congo. Et le Congo a besoin justement d'avoir une réponse assez adéquate par rapport à ça. Mais maintenant, toute la grande question, c'est de se dire, et le gouvernement congolais dans tout ça? Un, on compte sur la MONUSCO. Deux, on compte sur la force de l'EAC. Je peux comprendre le fait qu'il y ait notamment des rebelles étrangers qui se trouvent sur les sols congolais. Trois, on compte sur la force de la SADC qui doit arriver. Quatre, on compte sur les Angolais qui doivent venir et servir notamment par rapport à la sécurité de force du M23 avant leur cantonnement, ainsi de suite. Et quelle est la part du gouvernement congolais? Quelle est la part du système sécuritaire de la RDC? Donc il y a d'un côté ce rejet des réponses internationales et le rejet de la réponse sous-régionale, mais il y a aussi de l'autre côté le fait que le gouvernement ainsi que les forces de l'ordre, les forces de sécurité de la RDC ne sont pas encore en mesure de combattre les forces négatives qui se trouvent sur le sol congolais.
Merci Madame Diane Esther Lamata. Cette décision du gouvernement de demander à la MONUSCO d'accélérer son retrait de la RDC vous a-t-elle surpris ou vous attendiez à cela?
En tout cas, moi je m'attendais à cela parce que plusieurs années avant, il y a eu des réclamations de la population. Ça fait, je crois, depuis 2004 que ça avait commencé les réclamations pour enlever la MONUSCO de la RDC. Alors, le gouvernement a lutté d'une façon à ce qu'on les maintienne pour un temps. Alors, je crois et je trouve que le gouvernement a cédé à la pression de la population. Parce que la population, quand elle soutient quelqu'un ou un organisme, ils attendent ou elles attendent en retour une solution positive. Mais c'est depuis 2004, si j'ai fait la marche arrière, que j'ai vu que la population sollicitait déjà le départ de la MONUSCO. Et c'est après pratiquement 10 ans ou 9 ans après que la population a vraiment fait la pression et le gouvernement a cédé. Vous savez, le gouvernement peut défendre la MONUSCO, peut couvrir, mais ils peuvent aussi lâcher face à la pression de la population. La population s'est dit que la MONUSCO, étant l'organe de maintien de paix, n'a pas pu amener la paix parce que ça fait très longtemps qu'ils laissent la RDC toujours menacée. Laisse la RDC n'a pas de paix et nos concitoyens et leurs enfants n'arrivent même pas à aller à l'école ou à travailler parce qu'il y a l'insécurité dans la zone. Moi, ça ne me surprend pas du tout.
Merci, Madame Colette Wackmann. On a suivi Patient Ligodi. Hein. Comment on peut expliquer cette attitude du gouvernement congolais qui semble avoir tendance à privilégier la coopération régionale pour pacifier l'Est du pays?
Mais je crois que le gouvernement se fait vraiment l'interprète de ce que la population ressent. La population est fatiguée. Ça fait presque un quart de siècle que la MONUSCO est présente. Elle a rendu des services, c'est vrai. Elle a fait des choses, mais qui étaient marginales, qui étaient les droits de l'homme, la presse, les contacts, les transports. Mais ce qui était la mission principale, c'était rétablir la paix, c'était se battre contre les groupes armés et les réduire à l'impuissance. Et là, la mission principal en tête de liste, ça n'a pas été fait. Donc les gens sont fatigués, ils aimeraient bien la voir partir et ils n'examinent pas tout à fait les conséquences que ça peut représenter. On fait partir les témoins, on fait partir des gens quand même qui rendent des services, mais le gouvernement est à l'écoute de la population, donc jusque-là c'est normal. Et il y a aussi un mouvement normal qui est de faire confiance aux voisins, aux forces régionales. Partout dans le monde, on essaie de régionaliser le maintien de la paix, de responsabiliser les voisins dans les zones en conflit et de faire des traités pour que les voisins se portent garants de la paix. L'Afrique centrale ne fait pas exception à ce mouvement, mais on oublie aussi que les voisins ont leurs intérêts nationaux, leurs intérêts économiques, qui sont parfois plus importants que l'intérêt de la paix dans la région. Et le Congo est un peu victime de ça. L'exploitation de ses ressources, des rentes de situation que peuvent tirer ceux qui s'y trouvent, est plus important que l'intérêt des populations congolaises et elles-mêmes et du pays dans son ensemble. Mais je pense que c'est un mouvement assez normal qui se passe ailleurs dans le monde et que c'est une question de rapport de force. Le gouvernement congolais doit se montrer efficient. Il peut exiger le départ des forces étrangères, mais il doit donner la preuve qu'il est capable, lui, d'accomplir cette tâche régalienne, c'est-à-dire d'assurer la paix et la sécurité de ses citoyens. Et là, je reviens avec cette question. Cette force, les gardes républicains qui ont été amenés à intervenir à Goma, est-ce qu'ils ont été bien formés? Est-ce qu'ils ont été formés au maintien du calme, de la paix, et que ce ne sont pas uniquement des gens formés à une violence extrême? Qui les a formés? D'où viennent-ils? Parce que tout ça induit évidemment une énorme méfiance de la population et de la communauté internationale à l'égard des capacités des forces congolaises à faire leur travail, c'est-à-dire garantir la paix et la sécurité des citoyens.
Merci, on prend une petite pause en écoutant Soleil de Nana Mouskouri et on revient juste après.
Quand le ciel sera moins gris,
toi, oh, soleil, soleil,
C'était Soleil, Soleil de Nana Mouskouri. Nana Mouskouri, une artiste musicienne qui n'est plus à présenter. Je rappelle que nous avons dans cette émission Patien Ligaudy, le journaliste, directeur général du média en ligne actualité.cld et aussi correspondant de la Radio France Internationale RFI en RDC. Madame Diane Esther Lamata, membre de la société civile du Haut-Katanga et le président de l'ONG Klabel Diest Foundation, et en ligne depuis Bruxelles, capitale de la Belgique, Madame Colette Kleckmann, et les journalistes au journal Le Soir. Le ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique, Tony Mwamba, a confirmé que la date du 4 septembre a été respectée pour la rentrée scolaire. Dans son discours liminaire lors d'un briefing de presse spéciale rentrée scolaire lundi 4 septembre 2023 à Kinshasa, le ministre a précisé que dans l'ensemble, la rentrée scolaire est effective sur toute l'étendue du territoire national. Cependant, une centaine d'écoles n'ont pas repris les activités dans les secteurs Osso-Banyungu, dans les territoires des Massissi au nord Kivu. À la suite des affrontements entre des groupes armés, l'APCLS de Janvier Kalahiri et l'Enyatura SDDH du général autoproclamé Delta. Cette situation risque de perturber toute l'année scolaire, ont redouté mardi 5 septembre la société civile locale et les responsables locaux de l'enseignement. Madame Diane Esther Lamata, vous avez souhaité parler de l'éducation de la jeune fille et la rentrée scolaire dans les milieux ruraux en RDC. On vous écoute.
Nous avons voulu parler de l'éducation de la jeune fille et surtout dans les milieux ruraux parce que nous savons que l'éducation de la jeune fille est un atout pour le leadership de demain et l'éducation de la jeune fille permet le développement économique du pays. Alors, la question qu'on s'était posée est de savoir quand observer le lancement de l'année scolaire 2023-2024 par le ministre national. Nous avons constaté déjà le samedi lors des achats que les activités étaient timides et nous avons constaté le premier jour que la rentrée était timide déjà dans les milieux urbains. Alors la question qu'on s'était posée dans les milieux ruraux où déjà les écoles ne sont presque pas à côté, il faudrait faire de soixantaine ou cinquantaine de kilomètres pour aller à l'école et vu l'inflation actuelle de la monnaie, comment pourront faire les parents à qui on a sensibilisé, à qui on a enseigné, à qui on a dit que l'éducation est égalitaire, que ce soit pour le garçon, que ce soit pour les filles. Et voyant leur panier de la ménagère, ils se disent incapables d'envoyer les deux sexes à l'école et privilégient les garçons. Alors la question qu'on s'est posée deuxièmement, c'était comment faire booster à ces gens de milieux ruraux à envoyer leurs filles à l'école pendant que l'économie est faible. Ceci nous a poussé à demander au gouvernement national et aux organes qui militent pour l'éducation de la jeune fille, aller encore militer, aller sensibiliser, redoubler encore plus les efforts afin de permettre à tous les enfants d'aller à l'école. Pourquoi ? Parce que dans les milieux ruraux, la situation n'est pas bonne. Les filles sont exposées à des violences basées sur le genre qui sont vraiment des freins à la scolarisation de la jeune fille. Plusieurs enfants subissent ces violences, mais elles ne savent même pas où aller se plaindre, elles ne savent même pas comment le réprimer. Alors, les filles sont soumises au mariage précoce. Pourquoi ? Parce que peut-être l'économie ne sont pas dans de bonnes conditions, il y a le manque d'accès à l'eau potable. Pour les filles, prenant par exemple, excusez-moi, les filles qui veulent aller à l'école, je crois qu'elles ont des menstrues, elles ont besoin de l'eau. Et quand une fille n'a pas de l'eau, va-t-elle aller à l'école même si on a payé ? Ce sont des questions qui nous ont poussées à suggérer ce sujet, afin qu'on en parle plusieurs fois et qu'on discute. Et on appelle aussi les membres de la société civile, des organisations et l'UNICEF d'ailleurs, d'aller plus sensibiliser dans les milieux ruraux où il n'y a pas des écoles, il n'y a pas des institutions. Les écoles sont à 100 km, 50 km du village.
Merci, merci Madame Colette Blackman. S'il faut faire un parallélisme entre l'Occident et les pays du Sud au sujet du taux de scolarité de la jeune fille à l'école, que diriez-vous ?
Mais que la vie est vraiment dramatique, parce que quand j'entends Madame qui s'exprime, je me dis qu'il y a des choses qui sont absolument acquises en Europe, l'égalité dans l'enseignement, l'égalité des garçons et des filles, l'accès aux carrières. Bon, l'accès est encore problématique, mais tout de même dans l'enseignement, c'est obligatoire et ça ne se discute même plus. Et donc c'est vraiment, il y a encore un énorme chemin qui doit être fait. C'est une question de conscientisation, de développement. d'efforts financiers de l'État, mais c'est avant tout, c'est une volonté politique et qui doit être soutenue par les partenaires internationaux qui doivent vraiment pousser la RDC dans cette voie et l'encourager. Et en plus, ça correspond aux vœux de la population, parce que quand on parle avec les Congolais, les Congolaises dans les milieux populaires, même dans les campagnes, il y a une aspiration des filles à étudier, à accéder à un certain niveau de connaissances, à des emplois beaucoup plus qualifiés. Donc il y a des pays d'Afrique où ce n'est pas le cas, où les femmes auraient plutôt tendance à rester dans les milieux traditionnels, mais à mon avis ce n'est pas le cas en RDC. Donc il y a vraiment une aspiration populaire à ce que ce droit soit acquis pour les filles.
Merci, Patient Ligodi. Il y a quelques années, l'UNICEF avait initié en RDC la campagne intitulée « Toutes les jeunes filles à l'école ». Au vu de ce qu'on constate aujourd'hui à l'occasion de la rentrée scolaire, peut-on affirmer que cette campagne a eu un impact réel sur l'accessibilité de la jeune fille à l'école ?
Ah, Guy Mathieu, au-delà des jeunes filles, c'est un gros problème en RDC, la question de la scolarisation des enfants. Il ne faut pas oublier que cette rentrée est marquée par une insécurité croissante et des menaces pour des élèves. Hein. Si on prend l'est de la RDC, qui est déjà affectée par des conflits, la situation se détériore davantage. Les différentes statistiques, les dernières en tout cas qu'on a eues, c'est qu'on a plus de 800 000 enfants déplacés depuis le début de l'année. On a plus de 2000 écoles fermées en raison de menaces de sécurité ou utilisées par des déplacés. Là, c'est des gros problèmes. Il faut aussi des obstacles qui pèsent sur l'enseignement, notamment les grèves des enseignants, notamment la crise sanitaire avec les épidémies de choléra, la pire depuis 2017 en RDC, en particulier dans la province du Nord Kivu, comme l'avertit d'ailleurs l'UNICEF. Donc, en règle générale, il faut renforcer d'abord la sécurité, augmenter la présence sécuritaire autour des établissements scolaires, sur les chemins qui mènent les élèves à l'école. Il faut organiser peut-être des écoles temporaires. Je parle notamment des élèves qui sont aujourd'hui dans des sites de déplacés. Il faut organiser des soutiens psychosociaux pour fournir un accompagnement aux élèves qui sont traumatisés par des conflits armés. Il faut aussi peut-être organiser des séances de médiation, des dialogues entre les groupes armés pour garantir l'accès à la sécurité, à l'éducation pour les enfants. Il faut un soutien aussi aux enseignants qui sont dans des situations assez compliquées, dans ces zones insécures. Donc, brièvement, il y a la question de la jeune fille, mais il y a aussi globalement la question de la sécurité sur des sites écoliers en République démocratique du Congo.
Merci, Madame Diane Esther Lamata. On va finir l'émission avec vous. Et quelles recommandations vous feriez pour réussir à attirer le plus grand nombre de filles à l'école dans notre pays, la RDC?
Ok. Par rapport aux recommandations, je vais partir déjà du fait qu'il y a eu plusieurs mobilisations et communications visant l'inscription des enfants ou des filles à l'école. Mais jusqu'à présent, on voit que cet accès de l'éducation demeure un problème majeur dans beaucoup de milieux. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas l'accessibilité aux établissements. La RDC prend pour l'éducation de base gratuite. Alors, la gratuité, c'est pour déjà les institutions publiques. Or, notre pays connaît des problèmes depuis plusieurs années et ce qui fait que l'éducation est financièrement prise en charge par l'État, mais surtout ce qui concerne les salaires des enseignants, et parfois ça pose problème, et ces derniers se voient tout le temps en grève. Et c'est les ménages qui soutiennent financièrement, d'une façon significative, les écoles. Alors, tant que nous sommes parmi les pays les plus pauvres du monde, il sera difficile à la ménagère qui voit son panier insuffisant d'envoyer sa fille à l'école. Alors, ce que nous allons recommander, surtout pour les milieux ruraux où l'accès de l'éducation de la jeune fille est un problème majeur. Nous recommandons à l'État congolais d'aller construire les écoles à gratuité dans les milieux ruraux. Parce que si les jeunes filles ou les parents qui n'ont pas de moyens voient déjà à côté une école, ils vont se plier à la sensibilisation faite par les partenaires de l'éducation et ils vont envoyer leurs filles à l'école. Parce qu'il est pénible, difficile de demander à une fille de faire 60 km à pied pour aller à l'école. Je crois que ça fatigue. Déjà ça, c'est un problème, hormis l'économie des parents. La distance pose un problème. Nous, comme palliatif, nous conseillons à l'État congolais et aux partenaires de l'éducation d'aller dans les milieux ruraux allait multiplier les établissements scolaires dans ces milieux-là.
Merci, Madame Colette Brackman. Vous allez répondre à la même question. Quelles recommandations vous pouvez faire pour réussir à attirer le plus grand nombre de filles à l'école dans les pays comme la RDC?
Mais je crois que c'est une question de moyens, parce que la volonté, elle est là, la prise de conscience, elle est présente aussi. Les filles désirent étudier, les femmes représentent une force énorme au Congo, une force économique, une force politique. Il faut simplement prendre les dispositions pour qu'elles aient accès, convaincre les pères de famille, convaincre les hommes que c'est indispensable. Mais je trouve que l'RDC n'est pas le pays le plus mal loti, parce que cette conscience est là, cette volonté d'apprendre et de progresser, elle est là. Les femmes congolaises sont très fortes et à la limite, je dirais qu'elles sont, peut-être l'avenir du pays.
Merci, c'est la fin de cette émission. Merci à vous tous d'avoir accepté de participer à cette émission. Madame Diane Esther Lamata, Madame Colette Blackman et Monsieur Patient Ligodi. Merci aussi à Willem Lungamba qui était à la technique avec la participation d'Hervé Voka et d'Edeps Vita sous la supervision d'Alex Essomé et Martin Sebujangwe. À la présentation Guy Maté, merci et bon week-end sur Radio Capi. Cette émission sera rediffusée ce soir à 22h heure de Kinshasa. Vous pouvez aussi la retrouver sur le site radiocapi.net. On se sépare avec Okosinga Infumu de King Kester Emenea, chanson sortie en 1984 dans l'orchestre Victoria Ileison. Et on se retrouve le samedi prochain.
Na yo na koma koka tami sobe samu, angomba samu ikolo ya mwana mubali koyo. notre Père bien que du ciel.
Yorinenga, oh oh oh, yorinenga. Apoka apokalipse evitatinga mato. Napoko tanga la.